Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Marion Calais, Cyprien Signy.
Allez, on va défaire le monde maintenant, 18h39, avec vous, Cyprien Signy, toute la bande, Céline Landreau, Laurent Tessier, bonsoir.
Bonsoir.
L'info avec un autre regard, promis, vous allez apprendre plein de choses jusqu'à 19h au menu, Cyprien.
Ce soir, changement de mœurs, changement d'époque, la fourrure, symbole du luxe pendant des siècles, a-t-elle encore un avenir? En pleine semaine de la mode, la marque Moncler a annoncé qu'elle jetait l'éponge. Épiphénomène ou véritable tendance, on défait le monde à mener l'enquête. Au menu également, la saga des autotests à l'éducation nationale. Et on finira l'émission, accrochez-vous, en bobsleigh. On défait le monde la quotidienne, c'est parti!
On défait le monde dans RTL Soir.
Et pour commencer, le son du jour.
Décidément, le poil est partout. Les antilles sont moins antilles et les fourreurs plus gentilles. Résultat, la fourrure fait un comeback sur les podiums.
Alors ça, c'était il y a 10 ans, le grand retour de la fourrure. Sauf que visiblement, la mayonnaise ne prend pas. Cette semaine, la célèbre marque de doudoune Moncler a annoncé qu'elle y renonçait. Depuis le 1er décembre, il est interdit en France d'élever des animaux pour leur fourrure. Les derniers élevages de visons dans le pays ont fermé. On défait le monde a donc choisi de se pencher sur l'avenir de la fourrure.
Emporte-t-on vraiment moins qu'avant? Pourquoi la mode a-t-elle évolué? Et va-t-on continuer à fabriquer des manteaux de fourrure?
Pour en savoir plus sur ce segment bien particulier de la mode, on a contacté Joëlle de Montgolfier. Elle est directrice des études distribution et luxe chez Bain. Et visiblement, la mode évolue, mais pas en faveur de la fourrure. Explication.
Si je dois faire juste l'observation empirique de combien de femmes portaient des manteaux de fourrure quand nous étions jeunes et combien on porte aujourd'hui, vous verrez que c'est quand même quelque chose qui a drastiquement baissé. C'est pas une question de niveau de vie en tant que tel, c'est vraiment une question d'évolution des goûts, d'évolution des attitudes. C'est effectivement pas les standards de la mode aujourd'hui. Il y a une question d'image, il y a une question pour les marques de se dire finalement, vous avez toute une évolution de l'industrie de luxe sur les dernières années qui fait que le luxe ne se définit pas uniquement par la noblesse du matériel. Ce n'est plus la matière qui définit le standard de l'objet. Donc vous avez des t-shirts en coton, des jeans, des sneakers. L'art de la marque de luxe a transformé un matériau finalement assez commun en un objet hors du commun.
Bon, alors Moncler arrête la fourrure. Ok, sauf que ce n'est pas l'essentiel dans les doudounes. Le principal élément pour les doudounes, c'est du duvet, non, des plumes d'animaux.
Oui, mais pour les plumes de rembourrage, ce ne sont pas les animaux élevés que pour ça. C'est comme avec le cuir, en fait. On les mange, ces animaux. Et on utilise les plumes ensuite, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, en fait, de plus en plus, le bien-être animal joue un rôle de plus en plus important. De quoi placer la fourrure au banc des accusés. Après, bizarrement, le cuir, donc, n'est pas boudé par les créateurs et les clients. Et c'est pour une raison bien précise.
Tous les conflits et toutes les polémiques, ça tourne autour du bien-être animal pour l'essentiel. Si vous voulez, contrairement au cuir, où la peau en fait est un à côté de l'industrie agricole, on n'élève pas un veau ou une vache pour sa peau, donc on réutilise la peau quand on se nourrit de l'animal. La fourrure, en fait, ça vient d'élevage d'animaux qui ne sont élevés que pour leur fourrure. Donc c'est vraiment, on fait naître et on fait vivre et on élève un animal uniquement dans le but de, à la fin, effectivement, l'oxyre et récupérer sa peau. C'est un peu toute la polémique sur ce sujet-là.
Et donc la fourrure, c'est définitivement passé de mode?
Eh bien, pas forcément. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera différent.
Ce qu'on va observer, c'est une transformation. Vous avez des standards sur le traitement animal qui vont s'imposer et qui font que les marques pourront continuer à faire de la fourrure, mais devront se soumettre à un cahier des charges extrêmement rigoureux pour s'assurer que les animaux sont élevés dans des conditions dignes, entre guillemets. Et puis, quand le moment d'utiliser la peau est venu, on a les techniques les moins cruelles pour oxyre les bêtes. Il y a peut-être une transformation de la filière qui va s'effectuer, donc ça va sans doute se raréfier, mais aussi s'améliorer sur le fond, en fait.
Donc certainement moins de fourrure, mais de la fourrure un peu plus, disons, raisonnée, si on peut oser le mot.
Moins, mais mieux.
Voilà.
Ok.
RTL. Sous les radars.
Sous les radars, tous les soirs, dans On défait le monde, une info passée inaperçue.
Et celle-là, elle va surtout faire du bien à la planète, puisque la France va bientôt recycler vos pots de yaourt et vos barquettes de viande et de poisson, qui jusqu'à présent va passer entre les mailles du filet du recyclage, Laurent.
Oui, car dans ces déchets, on retrouve du polystyrène, du plastique très peu recyclé, plus difficile à transformer. Sur les 100 000 tonnes mises sur le marché en France, à peine 4 000 à 5 000 finissent au recyclage. Même pas en France, mais en Espagne ou en Allemagne, la majorité de ces emballages sont enfouis ou ainsi incinérés. Et alors, après 18 mois de travaux, des industriels comme Lactalis, Yoplait et Bigard se sont engagés à participer au financement d'une filière française de recyclage du polystyrène. On rappelle qu'Emmanuel Macron s'est fixé l'objectif de 100% d'emballages plastiques recyclés en France d'ici à 2005.
Ça va pas être facile.
2025, oui, 2005, effectivement.
Bah, c'est passé.
Alors là, on serait déboté. C'est un chiffre qui va vous impressionner. 16 milliards de pots de yaourt et autres produits laitiers sont consommés chaque année dans le pays. Il y a donc de quoi faire.
Vous êtes plastique ou vert, vous
Les yaourts en vert. Mais vous dites yaourt, vous?
Oui. Pourquoi vous dites comment, vous?
Yaourt.
Yaourt.
Vous dites yaourt.
Je sais pas, peut-être que c'est un langage d'enfant. Je dis yaourt.
C'est marrant, j'ai jamais remarqué.
Chacun sa méthode. Allez, une petite pause et on continue de défaire le monde dans RTL Soir avec la première info pour briller au dîner. On vous emmène dans les méandres d'Internet. A tout de suite.
On défait le monde. Marion Calais, Cyprien Signy. L'info pour briller dans On défait le monde.
Allez, On défait le monde continue dans RTL Soir. Voici la première info pour briller au dîner.
On vous en parle depuis ce matin. En milieu rural, un habitant sur trois n'a pas accès au haut débit sur Internet. Ça prend donc du temps de faire des recherches sur Google. Mais d'ailleurs, Laurent, pourquoi Google s'appelle donc Google ?
Quelle belle question. Ben c'est le moteur de recherche le plus utilisé, inventé en 1995. Et son nom n'a pas été pris au hasard. Les deux copains d'université à l'origine de Google ont choisi de faire référence à un terme mathématique, le terme Google. C'est-à-dire le chiffre 1 suivi de 100 zéros, j'ai fait simple, hein, si vous êtes mauvais en maths, ce qui leur permet, selon eux, de représenter l'immensité du monde d'Internet et le langage binaire fait de 0 et de 1. Bon, ce n'était pas le premier nom trouvé, il s'agissait de backrub. En français, on peut traduire ça littéralement par massage du dos. Bah, c'est beaucoup moins fun. Je me connecte sur massage de dos.
C'est... Et puis l'avantage, c'est Google, tout le monde le prononce pareil. Alors. L'heure du verdict.
Contrairement au yaourt.
Chaque soir, Céline Landreau désigne le winner ou le loser, le grand gagnant ou le grand perdant du jour.
Avec ce soir, et elle aime bien ça Céline, une saga de la loose, une odyssée de la défaite, la fabuleuse aventure des autotests
de l'éducation nationale.
Oui, car vous avez peut-être entendu parler de...
Cette affaire qui fait grand bruit dans les écoles, les collèges ou encore les lycées.
Mais quelle affaire ?
De nombreux établissements se plaignent d'avoir reçu des autotests périmés.
Des autotests pour détecter des cas de Covid distribués actuellement et qui seraient périmés ou sur le point de l'être.
Une boîte d'autotests apparemment banale, sauf qu'elle est périmée dans 3 jours. Ah. Et pourtant, elle vient d'être envoyée à cette enseignante par l'Éducation nationale pour être utilisée dans les prochains mois.
Alors, le ministère de l'Éducation nationale se justifie aujourd'hui. Il explique que ces lots ont été distribués aux académies au printemps dernier, des stocks non utilisés. Mais c'est vrai que cette histoire d'autotest dans les établissements scolaires s'est compliquée depuis le début, fin avril. Le gouvernement annonçait donc la généralisation des autotests dans les lycées et collèges. Sauf que ces autotests ont mis du temps à arriver, souvent livrés au compte-gouttes.
Des livraisons incomplètes.
Et aujourd'hui, les enseignants peuvent se faire tester à raison d'un test par semaine. Normalement, ça devrait être 2 tests par semaine, mais on n'a pas reçu tous les tests pour l'instant.
Et une fois arrivé, Jean-Michel Blanquer avait beau expliquer que l'autotest...
C'est pas quelque chose de très compliqué. Hein.
C'est vrai, en théorie. Sauf quand la notice est écrite à l'envers.
Quand c'est positif, c'est négatif. Et quand c'est négatif, vous avez le Covid.
C'est fâcheux.
C'est en gros ce qui est écrit sur les notices d'utilisation d'un des 4 fournisseurs d'autotests distribués dans les collèges lycées. Ça concerne quand même, d'après le ministère de l'Éducation nationale, 43% des commandes.
Voilà, près de la moitié des autotests livrés l'étaient à l'époque avec une notice fausse qui faisait lire les résultats à l'envers. Le ministère n'y était pour rien, certes, mais ça fait mauvais genre. Et une fois livré, alors, et avec la bonne notice, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient où, les autotests?
Ils sont rangés dans un placard.
Voilà, donc là, vous avez les autotests pour élèves. Nous en avions reçu 30 boîtes. À l'heure actuelle, il nous en reste 26 boîtes.
Il y avait de quoi tester les 750 élèves, mais il fallait d'abord l'autorisation des parents.
Nous avons dû récupérer à peu près une trentaine d'autorisations écrites.
Voilà, voilà, une trentaine sur 750. Et donc aujourd'hui, bah, on nous parle de tests périmés. Alors après, le ministère a peut-être trouvé la solution. Désormais, les professeurs peuvent obtenir une attestation pour 10 autotests gratuits à aller retirer en pharmacie. Plus de logistique donc pour l'éducation nationale. Ça devrait éviter quand même une partie des soucis.
C'est pas quelque chose de très compliqué.
Hein. Non, à l'arrivée, non. Une petite pause et dans un instant, une nouvelle info pour briller au dîner. On va viser l'immortalité, non féminin. Si, si.
On défait le monde. Marion Calais, Cyprien Signy. L'info pour briller dans On défait le monde.
Et c'est l'heure de la seconde info pour briller au dîner.
On a appris aujourd'hui le décès à 103 ans de l'académicien René de Obaldia, doyen de l'Académie française, une institution... Pas vraiment féminine, Céline.
Disons qu'elle a mis du temps, beaucoup de temps à s'y mettre. Si l'Académie est née officiellement en 1634, il a fallu attendre 1980 pour qu'une première femme rejoigne les immortels. Si, si, ça a pris 346 ans.
Il faut le temps que ça monte au cerveau.
C'est vous qui l'avez dit, Cyprien. Cette première femme, c'était Marguerite Yourcenar. Aujourd'hui, on compte 5 femmes parmi les 34 membres actuels de l'Académie. Parmi elles, Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'institution.
Eh ben.
Ouais.
Ah non, mais 346 ans, je trouve ça à peine croyable.
Mais c'est long.
Alors, on vous rappelle, Marion, que là, le principe de l'émission, c'est que comment vous arbitrez, vous choisissez la meilleure des deux infos. Comme je viens de vous rappeler la règle, je vous propose de choisir.
En général, on choisit souvent Céline.
Oui, voilà. Alors, si vous savez pas quoi dire, vous prenez Céline.
Vous pouvez changer de tradition aussi.
Non, non, Céline, c'est
bien. Pourquoi Google s'appelle Google, soit les femmes à l'académie.
Céline.
Les femmes à l'académie.
Merci, Marion.
Bravo.
Marche ou rêve?
Marche ou rêve, quand on met en valeur vos projets, vos initiatives. Et Cyprien, nous sommes jeudi.
Et comme tous les jeudis,
il va y avoir du sport, mais moi je reste.
C'est jeudi sport avec vos défis sportifs. Et là, Laurent, on peut dire que l'équipe dont défait le monde, c'est-à-dire nous, on a eu du nez.
Ça change.
Puisque, ouais, c'est vrai. Puisque l'an dernier, dans cette rubrique, on avait reçu Margot. Qui avait un rêve.
Oui, souvenez-vous, le 12 février, elle allait se lancer dans un défi digne de Mission Impossible, participer en bobsleigh aux Jeux Olympiques d'hiver à Pékin.
Oui, le rêve est là, et il nous ouvre encore plus les bras, on est encore plus motivés pour s'entraîner et aller chercher cet objectif à fond.
Eh bien, elle l'a fait. Margot sera à Pékin pour les JO. Bonsoir Margot.
Bonsoir.
Alors, vous êtes heureuse, j'imagine?
Ouais, très heureuse, on est vraiment fiers et on a quand même un peu de mal à réaliser pour le moment ce qui nous arrive.
Bravo quand même. Hein.
Ouais, bravo déjà
d'abord,
pour commencer.
Quand même. Et on le rappelle, c'est la première fois qu'il y a une équipe féminine française de bobsleigh aux Jeux Olympiques d'hiver. Hein.
Ouais, c'est encore plus une fierté du coup d'écrire l'histoire de son pays, c'est la cerise sur le gâteau je dirais.
Vous décollez quand pour Pékin?
Alors on part le 31.
Donc lundi, départ
ça
imminent.
Et alors,
vous allez défiler tout ça dans le stade olympique pour la cérémonie d'ouverture?
Oui, nos compétitions commencent pas dès le lendemain de la cérémonie, donc on aura la chance de pouvoir aller faire cette cérémonie d'ouverture. Donc je pense que le rêve commencera à ce moment-là.
Et alors, c'est du bobsleigh à deux que vous faites? Comment ça se passe? Vous avez quel rôle, vous?
Alors moi, je fais deux disciplines. Je fais le bob à deux et une nouvelle discipline olympique qui est le monobob. Du coup, moi, je suis la pilote dans l'équipe. Donc, je suis à l'avant du bob, je suis aux manettes et voilà.
Mais attendez, le monobob, ça veut dire que vous poussez et que vous conduisez en même temps? Comment ça marche?
Alors oui, du coup, je suis toute seule. Comme en bob à deux, je pousse. Mais cette fois, je serai toute seule pour pousser, toute seule pour piloter. Et je devrais freiner à l'arrivée.
Et on rappelle quand même le palmarès de Margot, championne du monde des moins de 23 ans, première française victorieuse en Coupe d'Europe. Donc, la médaille... Elle est accessible, Margot, on va pas se mentir.
C'est vrai qu'on a montré de belles choses, mais on aimerait viser un top 10 en bob à deux. C'est vrai que la médaille, c'est encore un peu tôt. Mais par contre, en 2026, on compte bien aller chercher l'or.
Et on rappelle que c'est quand même hyper spectaculaire, hein, parce que vous êtes sur une piste de luge, grosso modo, hein, je schématise, et vous atteignez des vitesses folles, non?
Oui, c'est un sport qui va relativement vite. On peut atteindre jusqu'à 150 km/h, donc c'est un peu impressionnant parce qu'on est dans un tunnel de glace, mais c'est vraiment plaisant. Les sensations, elles sont vraiment incroyables.
L'année dernière, quand vous étiez invité, vous nous aviez invité à venir essayer le bobsleigh.
On n'est pas venu.
On n'est pas venu. Est-ce qu'à votre retour des JO, quand vous aurez une médaille et que vous serez champion olympique, vous nous parlerez encore et vous nous inviterez quand même?
Bah oui, avec plaisir. Si on peut faire découvrir notre sport, c'est avec grand plaisir.
Eh bien, bravo encore, hein, Margot, pour votre qualification aux Jeux Olympiques d'hiver. Et on est avec vous, on va vous suivre.
On rappelle la date, hein. c'est quand la course à deux, là?
Le bob à deux, ce sera le 18 et 19 février.
Et toute seule, ça sera quand?
Le 13 et le 14 février.
Voilà. On va suivre ça. Les rendez-vous sont notés.
Pour un top 10 cette année. Et puis l'or en 2026, on a bien entendu, Margot.
Parfait.
Merci à vous, Margot. Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
On lui met bien la pression.
Ah ouais. Et moi, j'ai hâte de vous voir dans un bob aussi.
Ah bah on filmera ça avec RTL.fr.
On attend la vidéo. On attend la vidéo. Parfait. Et les JO qui commencent le 4 février prochain. C'est vendredi prochain. Alors, si comme Margot, on veut comme ça partager ses
participer
initiatives,
aux JO,
participer aux JO, on fait
alors,
comment?
Pour les JO, on ne peut pas faire grand-chose. Pour parler de vos initiatives, ça, on peut. Vous nous contactez sur la page Facebook ou le compte Twitter dont défait le monde. Laurent est là. Il surveille tous les messages en permanence.
Jour et nuit.
Allez-y. Vous pouvez envoyer une carte postale ou une lettre aussi à Céline Landreau. Voilà, au 56 avenue Charles de Gaulle, à Neuilly-sur-Seine.
92-200,
ça lui ferait plaisir.
Super. Merci beaucoup à tous les trois. Bon week-end.
Merci, on se retrouve lundi.
À lundi, exactement.
Et puis demain, le surf de l'info quand même, je fais ma promo. Hein, 6h40, 8h15 sur RTL.
Ça fait pas de mal.
À lundi.